J'ai moins d'une minute pour vite parler, présenter, mais bon, donc là, ce qu'on va entendre avant le micro ouvert, c'est le sketch de Jean-Pascal Zadi, qui mélange le présent, le passé, et là, vous le voyez pas, hein, c'est un sketch vidéo, quoi, vous le voyez pas, mais les gens sont habillés au genre 18e, 19e siècle, quoi. Ça fait, c'est bien dans le décalage. Et alors, on va parler ensuite de la dette avec Pablo et Vincent. Alors, c'est sûr, c'est pas en une émission d'une heure qu'on a compris la dette. Hein, ça, c'est sûr. Vous allez voir, au début, ça patine, je trouve. Et après, bon, on se détend, on parle un peu plus simplement. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une autre manière de gérer l'économie, quoi, et pas en se serrant la ceinture. Ça veut pas dire non plus pas en jetant l'argent par les fenêtres.
Bonjour.
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 Bonjour. Comme vous le savez, l'esclavage a été aboli. Oui. Et on a entendu dire qu'il y allait avoir des indemnités. Du coup, on voulait savoir comment ça se passe. Quoi.
Comment ça se passe quoi?
On a entendu parler d'indemnisation. On veut savoir s'il y a des papiers à remplir, s'il y a des démarches à suivre. Voilà quoi.
C'est ça, mais en calme quoi.
Oui, il y a bien des indemnités, mais comment dire pour être indemnisé, il faut un compte bancaire.
Eh oui.
Est-ce que vous avez un compte en banque?
Alors, un compte bancaire non, parce qu'en fait, jusqu'à hier, nous, on était esclaves. Et du coup, on pouvait pas trop... C'était un peu compliqué.
En termes de timing.
Ouais, même en termes de planning. C'était plutôt chargé.
Oui, mais ça, monsieur, le fait d'être esclave, je suis désolée, ça n'excuse pas tout. Hein. Vous ne pouvez pas mettre ça à toutes les sauces. Moi, vous n'allez pas me faire culpabiliser de quoi que ce soit. Hein. Le discours victimaire, ça va.
Oui, enfin, c'était hier hein, qu'on s'est...
L'esclavage a été aboli hier, en fait. On peut se plaindre 24 heures encore, non?
Oh, ne jouez pas ce petit jeu avec moi, monsieur. Hein. Pas ta ici. Vous savez ce que je vis au quotidien, moi? Est-ce que vous connaissez ma vie, monsieur? Je suis de Saint-Étienne, moi, et ma belle famille, elle est de Lyon. D'accord? Je vous fais un tableau ou ça vous suffit?
On voulait pas vous énerver, madame.
Non, mais vous avez gagné la liberté, monsieur. La liberté, hein, franchement. Est-ce qu'on peut mettre un prix là-dessus? Je ne crois pas.
Si, quand même, hein. Il y a un petit prix, quand même. C'était pas fastoche tous les jours. Hein.
C'est vrai, des fois, c'est chaud.
Bon, écoutez, on va arrêter de jouer à ça, je vais vous le dire. Les indemnités seront versées au maître, voilà.
Attendez. C'est-à-dire que nous, on a souffert toute notre vie, et c'est eux qui touchent de l'argent?
Ah oui, mais forcément, là, sorti du contexte, présenté comme ça. Mais posez-vous la question, qui est perdant dans l'histoire? Hein? Qui perd de la main-d'œuvre? Qui va voir son chiffre d'affaires drastiquement diminué? Eh ben, c'est pas vous, hein. Ben non. Je peux vous dire que c'est tout un secteur, là, qu'on doit réagencer, que c'est vraiment quelque chose à gérer, c'est un vrai bordel.
Mais donc, on abolit l'esclavage, mais on indemnise les maîtres d'esclaves.
Eh ben voilà! Lui, il a compris.
Micro ouvert.
Je suis pas sûr longtemps dans le micro, je vais un peu... parce que c'est marrant, quand même. La pluie. Hein. Pour changer en Belgique, quoi. Hein, on est en...
Ouais.
On est dehors. Sous la pluie, hein. On a nos kawés et tout, hein. Non, on est à l'abri, là. On est sur une terrasse, quoi. Et donc, j'ai ici deux personnes qui vont se présenter là tout de suite, mais avant, j'avais envie d'expliquer un peu comment ça se fait qu'on se rencontre, quoi, un peu de contexte. Et donc, ça passe par Olivier Bonfond. C'est un texte qu'il a écrit sur... On rigole parce qu'on entend... Ben, c'est l'heure de pointe, en fait. Hein. Et on est place d'Hylens, si les gens voient, à Saint-Gilles. Donc, voilà. Donc Olivier Bonfond, il fait un post sur le Facebook et ça dit ceci. Donc je le lis et suite à ce post, j'ai envie de le rencontrer. La dette, toujours la dette, elle serait trop élevée, insoutenable, menaçante. On nous répète qu'il n'y a pas d'alternative, il faut la réduire vite, sous peine de catastrophe. La France serait en faillite, la Belgique pourrait finir comme la Grèce. Ces refrains, loin d'être nouveaux, accompagnent depuis des décennies et même des siècles le discours dominant du capitalisme. Au nord comme au sud, la dette sert de prétexte, d'alibi, d'arme politique pour justifier l'austérité et servir les intérêts des puissances économiques et financières. C'est vrai que je pourrais m'arrêter là, mais il y a une deuxième partie. Là, elle est un peu plus... Moi, je comprends un peu moins, mais Dans ce système d'aide, les agences de notation occupent une place importante. Chaque dégradation de note fait la une des médias et intensifie la pression sur les gouvernements. Récemment encore, l'État fédéral et les trois régions, wallonne, bruxelloise et flamande, ont vu leurs notes abaisser, déclenchant leur lot de discours alarmistes. Comprendre ce que sont réellement ces agences est donc essentiel. Loin d'être neutres, elles sont un rouage du système capitaliste et un instrument au service des marchés financiers. Si leur influence est bien réelle, elles ne sont pas toutes puissantes et il est possible de les neutraliser. Bon, voilà. La deuxième partie, voilà, je la comprends moins. Et donc j'ai essayé de contacter Olivier Bonfond qui m'a évidemment bien répondu, mais bon, pas le temps. Et puis voilà, donc voilà, j'ai deux autres personnes ici qui vont un petit peu se présenter pour qu'on comprenne un peu qui ils sont, qui vont un peu nous éclairer sur tout ça, quoi. Trop chouette. Donc voilà, c'est... Je sais qu'il y a un... J'ai même oublié, il y a Julien ? Non.
Ah, tu tiens. Bah moi c'est Pablo Lexet, et donc nous on travaille au CADTM. T'as pas présenté non, le CADTM.
En quelques mots.
Je présente en quelques mots maintenant.
Donc mieux quoi pour comprendre, mais c'est quoi les gens qui connaissent pas du tout.
Oui, donc le CADTM c'est le comité pour l'abolition des dettes illégitimes, donc anciennement le comité pour l'annulation des dettes du tiers-monde. Et on va avoir le temps d'en discuter, mais grosso modo c'est une organisation qui travaille sur la question de l'endettement, surtout endettement public, mais aussi endettement privé, et donc aussi la question des politiques qui vont avec, donc la question des politiques d'austérité, politiques néolibérales, plans d'ajustement structurel, qui ont des impacts sur les populations, et etc.
Et Pablo, ça fait longtemps que tu fais ça ?
Ça fait presque 4 ans que je suis au CADTM, mais ça fait longtemps que je suis l'organisation.
Et c'est quoi comme étude, du coup, que tu as faite ?
Moi, j'ai fait des études coopération internationale, donc c'est un peu style... Sciences Po, relations internationales, un peu plus cheap, pourrait dire certaines. Mais voilà. Après, je pense que avec différents types d'études, on peut discuter de cette problématique, puisqu'en fait, la dette, les politiques qui sont imposées sous couvert de lutter contre l'endettement vont toucher toute une multitude de secteurs, que ce soit la question de l'éducation, de la santé, de la souveraineté alimentaire, les questions de migration, d'inégalité, de domination de genre. Et en fait, en fonction de notre vécu, de notre parcours, on peut tous avoir une porte d'entrée ultra évidente en fait sur cette question là qui touche en fait absolument tout le monde.
Du coup bonjour, moi je m'appelle Vincent et ça fait 2 ans que je bosse au CADTM. Ce que Pablo vient de dire c'est très précis, il n'y a pas grand chose à rajouter, je pense qu'on pourrait y venir dans la conversation. Moi ce qui m'intéresse particulièrement dans mon travail c'est d'une part la dimension sociale, que ce soit dans les rencontres qu'on peut faire avec les personnes, les formations qu'on peut donner dans les milieux syndicaux, et puis simplement créer des espaces où on peut s'écouter, s'entendre et proposer des alternatives. Et en particulier, moi, ce qui m'intéresse très fort en ce moment, ce sont les blocages politiques au niveau fédéral avec l'Arizona et au niveau de Bruxelles, puisque ça fait presque, on va bientôt battre leur record, hein, 541 jours à Bruxelles sans gouvernement. On est très fiers de ce record en Belgique, je crois. Non, c'est pas vrai. J'essaye de proposer un discours qui va à l'encontre du discours dominant, qui est soutenu par l'idéologie néolibérale, qui impose constamment des cures d'austérité, des diminutions dans les budgets sociaux, et qui propose au contraire d'investir le marché parce que le marché régulera tout. Je crois que c'est un discours qu'il faut vraiment déconstruire et on est là pour ça aujourd'hui.
Mais moi j'ai une première question comme ça spontanément, après vous m'emmenez où vous voulez, hein, je vous dis. Hein. C'est que le discours alternatif qu'on devrait entendre, il n'est pas dominant, quoi, on est d'accord. C'est plutôt l'austérité qui gagne, quoi. Qui a tout pouvoir, qui est dans tous les médias. Vous faites quoi vous dans le concret pour contrer tout ça, où vous êtes, quoi. J'ai envie de dire ça sans connaître, vous voyez, parce que c'est quand même l'austérité qui gagne, quoi. C'est lui qui est sur tous les fronts, vous discutez avec les gens, ah oui, mais il faut serrer la ceinture, les chômeurs, les profiteurs, vous voyez, c'est... Où vous êtes, vous, alors ?
Où on est précisément dans la lutte, c'est ça la question ?
Oui, comment ça se fait qu'ils ont pas gagné. Ils ont gagné, mais c'est pas. Vous voyez, Il y a la phrase là, ils ont gagné la bataille, mais pas la guerre, quoi. Genre. Mais oui, comment ça se fait qu'il n'y a pas de. On dirait qu'il n'y a pas de contre-pouvoir, voilà. Si moi je m'intéresse un peu à la chose de loin, ça fait un bail quand même qu'on entend l'austérité à toutes les sauces. Pourquoi on entend très peu, souvent, le discours inverse, quoi, celui qu'on va un petit peu déployer ici, quoi.
Bah, la raison, elle est assez simple, hein, c'est que pour pouvoir protéger l'intérêt des plus privilégiés, il faut absolument faire taire tous les contre-pouvoirs. Et pour faire taire ces contre-pouvoirs, il y a plusieurs stratégies. La violence physique, des répressions dans les manifestations, nasser illégalement les individus qui viennent exprimer leur colère. Et d'autre part, on le sait, l'argent c'est le nerf de la guerre. Si t'as pas de thunes, tu peux rien mettre en place. Et typiquement, quand on regarde les attaques sur le secteur de la culture, quand on regarde les attaques notamment sur les points APE, sur l'aide à l'emploi, quand on regarde les attaques sur le milieu de la santé, on ne met pas du tout les choses en place pour protéger celles et ceux qui essaient de proposer des alternatives. Et ces personnes-là, elles doivent quand même manger, elles doivent quand même se loger, elles doivent quand même se protéger. Et à partir du moment où tu es dans un mode de survie constant, tu n'as plus l'opportunité de t'exprimer dans l'espace. La troisième chose, c'est la complicité des médias. Il y a énormément de médias qui nous sortent un discours qui reproduit simplement le discours des gouvernements. Et c'est pas du tout normal, parce que les problématiques, elles sont très claires. Et nous, notre rôle, justement, quand tu poses la question de savoir où on se situe, ben nous, on essaie de se situer justement à cette marge-là en disant, en fait, il y a des ennemis. Il y a des noms, il y a des professions, il y a des personnes très concrètes.
Il y a des noms, tu veux dire, il y a des gens. Il y a des noms, il y a des gens. Hein.
Ouais. Il y a des individus qu'on peut citer, qui prennent des décisions. En fait, c'est structurel, c'est organisé. La volonté d'éliminer les contre-pouvoirs afin d'assurer la légitimité du pouvoir en place. Mais ce pouvoir-là, il n'est pas légitime. Il fait énormément de choses qui vont à l'encontre des intérêts de la population. Alors après, c'est une deuxième question, pourquoi ils le font? Et là, on rentre dans un autre débat, mais j'imagine qu'on y arrivera un peu plus tard dans la conversation.
Oui, oui, mais t'as envie de répondre, toi, Pablo, à ce qui s'est dit là ou de...
Je rejoins tout à fait Vincent, mais même pour avoir une réponse assez simple, c'est que le discours des dominants, le discours dominant, il sert justement les intérêts des dominants qui ont justement les capacités et le pouvoir d'imposer ce discours, en fait, et d'étouffer toutes les voix...
Si je me souviens bien, la politique, là, on a voté... Juste avant qu'on vote là maintenant, c'était un peu la écolo au pouvoir, c'était le PS au pouvoir. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Même institutionnellement, on se demande où est la bagarre, où était la bagarre, quoi, non?
Oui, la bagarre, c'est peut-être dans l'intensité d'appliquer ces politiques, parce qu'en fait, ça fait plusieurs décennies qu'on est dans une espèce de mouvement néolibéral, enfin, où même. Comme tu dis, le PS, écolo, etc. En fait, ces dernières décennies, eux-mêmes étaient dans cette logique d'imposer des politiques d'ouverture des marchés, de libéralisation d'économie, de baisse des dépenses. Et en fait, c'est vraiment une logique économique qui a dominé tous les secteurs et tous les partis politiques, à part les partis de gauche qu'on pourrait dire, selon nous, la vraie gauche.
Et, laquelle, du coup, alors?
En Belgique, j'ai trop envie de me positionner par rapport à un parti ou un autre, mais...
En fait, il y a un enjeu qui me semble vraiment important, c'est en tout cas un concept, la fenêtre d'Overton. Et la fenêtre d'Overton, c'est un concept en sciences politiques et en sciences sociales qui définit le cadrage de l'information et qui définit ce qui est juste, normal ou impossible à accepter. Et aujourd'hui, on est dans une société à l'échelle européenne et probablement à l'échelle occidentale où cette fenêtre, elle est décalée très fortement sur la droite. Et donc toutes les idées de droite ou voire même d'extrême droite sont considérées comme normales. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on parle du clivage gauche-droite aujourd'hui, en fait, il n'y a plus vraiment de gauche-gauche comme on aurait pu le définir il y a quelques années parce qu'on est tellement parti sur la droite.
Même la gauche, en fait, c'est ça le truc. Mais ce que je voulais dire, c'est que voilà, c'est une petite intro pour dire, mais voilà, maintenant, on a l'impression qu'on se cache plus. Il y a vraiment les gens qui sont pas contents, les gens sont dans la rue. Enfin, il y a le 14 octobre, là, où il y avait un gros paquet de gens que... 140. Il paraît que ça faisait... Tu disais
140 000 personnes.
Non. Oui, mais il y a des gens qui disaient que ça faisait longtemps qu'ils n'avaient plus vu des gens comme ça. Voilà, donc, il y a quelque chose qui se réveille, quoi. Voilà. Du coup, moi, j'avais envie de parler de l'austérité. Et j'avais envie que vous m'expliquiez Qu'est-ce que c'est que ce bazar, quoi? Pourquoi d'une main on nous fait croire, mais je veux dire, si on est un petit peu observateur, qu'on lit un peu et tout, on voit bien qu'on n'est pas dans l'austérité, quoi. Non? Ou bien... oui, mais même... je veux dire, les gens roulent en belle bagnole. Enfin, tu vas me dire, ça dépend dans quel quartier, mais je veux dire, il y a de l'argent, quoi, en Belgique, non? Enfin, je veux dire...
Oui, mais en fait, quand on parle d'austérité, en fait, c'est plus... on parle de... Enfin, y a... plein d'expressions.
Ouais, mais vas-y, hein, comme ça.
Mais c'est la question de la rigueur budgétaire, etc. C'est l'austérité par rapport aux politiques de l'État, etc. Et en fait, c'est juste pour répondre... en fait, c'est que l'idéologie économique dominante aujourd'hui, qui est donc le néolibéralisme, qu'on peut... on peut avoir des opinions divergentes pour dire, bon, on est plutôt sur la fin ou pas vraiment du néolibéralisme. En fait, c'est que quand... on considère, ou que certaines personnes considèrent, que la situation économique de l'État est problématique, notamment parce que la dette serait trop élevée, eh ben on va imposer cette logique néolibérale pour essayer de répondre à cette situation problématique.
Oui, mais déjà là, on a envie de comprendre qu'est-ce que tu dis exactement, quoi. Le gouvernement qui gère les caisses de l'État, on va dire, que ce soit l'éducation, le social, la santé, je sais pas, moi, il dit qu'il n'y a plus assez d'argent, quoi. C'est ça l'idée, hein.
C'est un petit peu le discours avec lequel nous, on n'est pas...
Mais ce serait bien de le définir là, comme ça on dit la même chose. Donc c'est genre, il n'y a plus d'argent pour...
Donc en gros... Après la Première Guerre mondiale, la Belgique se retrouve dans une situation où elle doit reconstruire son pays. Pour reconstruire son pays, elle s'endette parce qu'elle n'a pas suffisamment de rentrée d'argent, parce qu'il faut tout reconstruire en fait. Donc l'argent n'est pas présent, il faut s'endetter, il faut trouver une technique pour avoir suffisamment d'argent pour investir. La Deuxième Guerre mondiale arrive, répétition. Et là, à ce moment-là, il y a un événement qui s'appelle le plan Marshall, donc en 45, on va partir de 45. Ce sont les États-Unis qui viennent investir énormément d'argent en Europe afin que l'Europe puisse se reconstruire.
Coloniser, on pourrait dire, non?
Coloniser, dans un sens, c'est plutôt une colonisation culturelle. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on boit beaucoup de Coca-Cola et on regarde des films américains. États-Unis. C'est typiquement la stratégie. Il fallait un partenaire commercial privilégié. Et ce partenaire commercial privilégié, c'est l'Europe. Ou en tout cas, ce qui est devenu l'Union Européenne. Là, on arrive dans cette période qu'on appelle généralement les 30 Glorieuses. Alors, c'est un concept qu'il faut absolument remettre en question. Mais... en tout cas, c'est comme ça que le discours dominant le définit. Et ces 30 Glorieuses, elles voient presque la disparition du chômage, un taux de croissance élevé, un niveau de vie qui se développe, où on voit de plus en plus les voitures, les machines à laver, le droit de vote pour les femmes, c'était il y a 80 ans, c'est quand même assez incroyable. Et puis la période mai 68, les révolutions étudiantes. Donc toute cette période-là, elle témoigne un peu d'un niveau de vie qui permettait l'engagement. Ce qui se passe à partir des années 70, on a deux crashs boursiers qui sont dus à des causes exogènes, donc ce qui s'est passé par exemple avec la guerre entre l'Iran et l'Irak, ou alors la guerre du Kippour, où on a vu les organisations exportatrices de pétrole qui ont décidé d'augmenter le prix du baril, donc le prix du pétrole, et ce pétrole, il était nécessaire pour nos modes de vie de petits blancs en Occident, pour conduire nos voitures, pour avoir du plastique, etc. À partir de ce moment-là, comme le prix de l'énergie il a augmenté, ça veut dire que le budget qui était alloué étatiquement à l'énergie, il devait augmenter aussi. Sauf que les recettes, elles diminuaient, c'est ce qu'on a appelé une période de stagflation, donc stagnation économique, pas de croissance, et inflation, augmentation des prix généralisée. À partir de ce moment-là, donc les années 80, on a ce qu'on appelle le tournant néolibéral, donc c'est le thatcherisme typiquement, ou ce qu'il y a eu aux États-Unis avec Reagan. Et là, on a vu qu'en fait, la stratégie pour répondre à la diminution des recettes et à l'augmentation des dépenses, c'était d'imposer des cures d'austérité. Et en fait, ce discours-là, ça fait 40 ans qu'on nous bassine, enfin avec lequel on nous bassine, pour dire il faut absolument diminuer les dépenses, il faut absolument diminuer les dépenses. Et nous, notre discours, il est l'opposé. En fait, c'est pas un problème de dépenses qu'on a, c'est un problème de recettes. On ne reçoit pas, l'État ne perçoit pas suffisamment d'argent pour pouvoir mettre en place tous les investissements qu'il est censé mettre en place. Et aujourd'hui, quand on parle de cure d'austérité, on va s'attaquer typiquement aux écoles, aux soins de santé, aux transports en commun, ou alors on investit dans des gouffres financiers comme ici à Bruxelles avec la ligne 3 du métro, où on a mal fait le travail de préparation et on jette l'argent par les fenêtres. Mais par contre, on vient nous dire il faut arrêter de dépenser trop, il faut se serrer la ceinture. En fait, on se trompe d'ennemi, on se trompe de, de cible en disant ça. On vient faire payer le contribuable pour des erreurs que lui ou elle n'a pas commises. Au contraire, il faut aller voir où ont été donnés les avantages. Et ce dont on parle généralement, ce sont des avantages fiscaux. Pablo, je te donne la parole après, mais ces avantages fiscaux, ce sont des cadeaux aux entreprises ou des tax cuts, des tax shifts qu'on ne met pas en place pour permettre la croissance parce que le marché va stimuler la croissance. Mais en fait, ce n'est pas vrai. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a une énorme disparité entre la possession de richesses dans le privé et la possession de richesses dans le public. À une époque, on était relativement stable, voire similaire. Aujourd'hui, les richesses privées font deux fois le montant des richesses publiques. Et ça, c'est un problème. Et pourquoi on n'en parle pas? Nous, c'est le discours qu'on essaie de dire, de sortir, d'exprimer.
Waouh, tu dis plein de choses, hein, qui paraît évidente comme ça, mais si je comprends bien. Mais après, vous me dites, hein, non, j'ai pas compris, il faut pas avoir peur. Il y a des dépenses, évidemment, dans un gouvernement, il y a des dépenses et des recettes, quoi, de l'argent qui rentre et de l'argent qui part. Cet argent, il vient pas du ciel, il tombe pas du ciel, c'est tous les contribuables. Qui participent à ça, quoi, et obligatoirement, quoi, c'est pas un choix, on est d'accord. Donc il y a quand même une masse d'argent qui rentre. Je me souviens plus, c'était combien en millions, 500 et des. Ou en milliards.
C'est
500 et des quelque chose.
Ça, c'est le PIB.
Ouais, c'est le PIB, mais c'est.
C'est tout ce qu'on produit. C'est la valeur de tout ce qu'on produit en Belgique.
Oui, mais c'est ça, c'est tout l'argent qui rentre, quoi.
Non, c'est ce qu'on produit. Par contre, le budget de l'État...
Attends, explique, parce que tu vas trop vite. Non, c'est ce qu'on produit, mais c'est de la
référence.
Tu veux dire quoi quand tu dis ça? Soyons concrets pour comprendre.
Le PIB, c'est la somme de tout ce qui est produit à l'intérieur du pays.
Oui, mais ça veut dire quoi?
C'est la richesse qui existe. Si tu vends un café, tu as créé... Enfin, c'est un service, donc tu as créé de la valeur et tu as créé de la vente. Nous, quand on parle des budgets et des dépenses de l'État fédéral, c'est pas la production, c'est plutôt ce que l'État va percevoir justement grâce aux assises, grâce à la TVA, grâce aux taxes de toute forme. Et donc ça, c'est ce qu'il va obtenir. Et je crois qu'en Belgique, t'as le chiffre.
C'est ce qui va rentrer, c'est ça que tu dis.
Ouais.
Mais c'est pas que ça qui rentre quand même, c'est pas que les taxes, les impôts.
L'impôt sur les sociétés, l'impôt sur les personnes physiques, les assises, donc le tabac, l'alcool. Donc ça regroupe, j'ai pas les fromages sous les yeux, mais okay. et ça doit représenter quelque chose.
On va taper plus ou moins dans les 300 milliards, autant dans les recettes que dans les dépenses, puisqu'il y a le déficit, donc la différence entre les deux, mais qui sont plus ou moins tous les deux au même niveau, quoi.
Là, j'ai pas compris. Là, ce qui rentre et ce qui sort, c'est le même niveau?
Plus ou moins.
Ça que tu dis?
C'est les dépenses. En fait, idéalement, les dépenses et les recettes doivent être égales.
Ça veut dire quoi quand qu'ils doivent être égales? Ça veut dire qu'il peut pas être, il peut pas y avoir un trop grand décalage, sinon.
Oui, c'est-à-dire que si on dépense plus que ce qu'on gagne, la différence, donc, c'est ce qu'on appelle le déficit.
On est en dette, du coup, alors.
Oui, c'est ça. Quand on a un déficit de 10 milliards, par exemple, c'est qu'on aura, dépensé, par exemple, 310 milliards et qu'on aura reçu par les taxes, etc., les assises, comme Vincent vient de le dire, 300 milliards. Donc cette différence de 10 milliards, il va falloir la combler. Comment? En général, on le fait par l'endettement.
Oui, voilà, c'est ça. C'est tout simple, en fait, de comprendre. C'est que si tu dépenses de l'argent que tu n'as pas, c'est beaucoup comme ça que fonctionne l'économie, hein, en même temps. Hein. On te fait un prêt et du coup tu rembourses tous les mois, quoi. Voilà. C'est ça aussi, non?
Ouais.
C'est ça un peu cette image, quoi. Il y a de l'argent qui rentre, il y a de l'argent qui sort, et il faut que ce soit quand même plus ou moins à niveau, quoi, parce que sinon on appelle ça la dette.
Oui, c'est ça, mais après les États, à la différence des ménages, en fait, s'endettent en fait en permanence.
Oui, mais c'est ça que j'avais une fois entendu et que je trouvais super intéressant, je sais plus dire de qui, que d'office, un système, il est en dette, puisque d'office, il y a des frais à faire, tu vois. D'office, il y a de l'argent qui sort. Après, moi, j'avais envie de comprendre pourquoi ça s'appuie tout le temps sur l'austérité, pourquoi il n'y a pas un autre discours, et comment croire qui, et comment démonter la machine, quoi, parce qu'il y a de l'argent.
Mais parce que, justement, en fait, on en revient un petit peu au début de notre discussion, c'est parce que c'est le discours qui est imposé par les dominants, qui répondent à l'idéologie néolibérale. Attendez, j'attends que l'ambulance passe.
Il y en a pas mal, hein, qui passent par ici.
Oui. Donc c'est le discours dominant qui répond par l'idéologie néolibérale. L'idéologie néolibérale qui veut que pour avoir une économie la plus performante possible, il faut laisser une place la plus grande possible au marché, laisser jouer la concurrence, etc. Donc on a parlé dans un cadre austéritaire, on coupe dans les dépenses, mais c'est aussi signer des accords de libre-échange, c'est aussi libéraliser l'économie, c'est aussi des privatisations. Et en fait, on a souvent l'idée que les politiques néolibérales vont faire en sorte de faire disparaître l'État. Mais en fait, c'est surtout mettre l'État au service des marchés. Par exemple, on l'a bien vu dans le cadre du Covid, où certains disaient c'est la fin du néolibéralisme parce que les États investissent massivement pour soutenir l'économie, etc. Alors qu'en fait, non, c'est exactement une phase classique du néolibéral, c'est-à-dire que les États sont intervenus massivement pour soutenir les entreprises, pour éviter qu'il y ait des trop gros chocs sur les marchés. Et donc en fait, l'idée de l'austérité, c'est de dire, on part d'un problème, donc ici qui est dénoncé par exemple la question de la dette, mais on va y revenir, pour nous c'est un faux problème, c'est un faux prétexte, mais qui est utilisé donc comme prétexte pour imposer toutes ces politiques-là. C'est-à-dire qu'on va dire, la dette est trop élevée, donc il faut imposer...
Il faut se serrer la ceinture.
Il faut se serrer la ceinture, il faut imposer des politiques qui vont dans le bon sens, entre guillemets.
Pour... Il faut virer les chômeurs, il faut saper la santé, ça coûte trop cher.
Oui, c'est ça. Alors que, comme tu dis, il y a d'autres possibilités. On pourrait tout simplement dire que à la place de couper dans les dépenses, on pourrait dire que investir massivement dans l'économie de l'État, avec des investissements stratégiques qui vont redynamiser l'économie, qui vont redynamiser la croissance, qui vont créer des emplois, qui vont faire en sorte que les gens ont plus de pouvoir d'achat, donc consomment plus, qu'il va y avoir en consommant par exemple, l'État va avoir plus de rentrées via les taxes, etc. Mais c'est aussi une manière de redynamiser l'économie, d'essayer de sortir du marasme économique, mais avec la méthode inverse. Donc,
ben justement, développons-la, qu'on comprenne bien. Moi, c'est vraiment, on a du temps pour ça.
Mais c'est un petit peu comme je viens de dire, quoi.
Tout simplement.
Non, ben pas tout
facilement comme ça. Il suffit de.
Non, pas il suffit de, mais c'est un petit peu pour aller à rebours du discours qui dit qu'il y a une seule solution, c'est de couper dans les dépenses, etc. Nous, on pense que, au contraire, l'État doit investir dans l'économie. Dans l'économie de la société, enfin dans l'économie générale, quoi, pour pouvoir justement récupérer ce dynamisme. Et d'ailleurs, en fait, c'est même pas seulement un souhait. Pour nous, c'est vraiment un impératif, puisqu'en fait, aujourd'hui, notre société fait face à des défis qui sont colossaux.
Comme quoi, par exemple ?
On pense classiquement à la question de la déglobalisation, le fait qu'on va plus pouvoir acheter et vendre des produits qui font trois fois le tour de la planète avant d'être consommés.
Qui dit ça ? C'est qui dit que ça ne va plus être possible ?
C'est un petit peu l'idéal de la mondialisation. Enfin, je veux dire, si je dois caricaturer, on va aller pêcher des crevettes au Maroc qu'on va envoyer en Chine pour se faire décortiquer, ensuite en Argentine pour se faire emballer, et puis qu'on va venir consommer ici en Europe.
Oui, mais moi je suis d'accord avec ça, mais concrètement... C'est ça qui se passe aujourd'hui, et tu as l'air de dire que bientôt tout ça va s'arrêter. C'est ce que je viens.
Si on prend. Pardon, Vince, après je te relaisse la parole, mais. Si on s'attaque juste à la question climatique-écologique, on voit qu'il faut réduire les distances entre production-consommation, et donc des schémas comme celui qu'on vient de décrire est complètement non viable. Et alors, ce que je suis en train de dire, c'est que. Pour sortir de cette logique, il faut investir massivement, par exemple, en Europe pour récupérer des industries, des entreprises ou tous des secteurs qui ont été délocalisés, exportés, etc. Ça c'est un exemple, donc je parle de la déglobalisation. Il y a aussi la question de la crise écologique, de la crise climatique, le fait qu'il faut investir massivement pour adapter la société, pour d'une part l'adapter, d'autre part... intervenir pour les réparations quand il y a des catastrophes. Dans la question de l'adaptation, il faut adapter toute la question de l'agriculture, ça demande de la recherche, ça demande des infrastructures, etc. Je veux dire, c'est un exemple parmi d'autres. Il y a aussi la question du vieillissement de la population en Belgique, qui est super important. En fait, tout ça, je suis en train de donner juste quelques exemples pour dire qu'aujourd'hui, on est plutôt dans une situation où on a besoin d'investissements énormes, stratégiques, ultra importants, plutôt qu'en fait aller chercher des bouts de ficelle au fond des tiroirs et dire on commence à couper dans l'éducation, on commence à couper dans la santé, tous les projets de transition écologique, de bifurcation écologique, ça part à la trappe. Enfin, en fait, on est en train de courir dans le sens contraire de là où on devrait aller, quoi.
Oui, oui, on est d'accord là-dessus. Il y a aussi l'idée de la guerre, là. Je veux dire, il n'y a pas d'argent, mais il y a de l'argent pour des avions de guerre, quoi. Tu dis ?
Les F-35.
Oui, 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 voilà. Enfin, je veux dire, les gens, s'ils réfléchissent un peu, ils comprennent pas, quoi, non ? Quoi, on nous dit d'une main qu'il faut serrer la ceinture et de l'autre, il y a une vision du monde qui part dans un sens où c'est pas pour la majorité, quoi.
Il y a un truc qu'on nous a inculqué quand on était petit et qu'on continue de nous inculquer constamment, c'est l'idée que l'économie, c'est une science exacte comme les mathématiques. Et en fait, c'est pas vrai. L'économie, c'est une science sociale. C'est vraiment important. Le discours économique, il est fondé sur des décisions humaines et donc des intérêts humains. Et c'est vraiment important de le remettre en question. C'est pas parce qu'on nous dit qu'il faut faire tel ou tel calcul mathématique pour arriver à telle ou telle résolution, pour être sûr qu'on a la meilleure stratégie pour augmenter la croissance ou diminuer la dette, que ça va fonctionner. C'est pas comme ça que ça fonctionne du tout. Si on prend un exemple très simple, dans l'Union européenne, il y a une procédure de déficit excessif. Cette procédure, elle est mise en place par le pacte de stabilité et de croissance qui a pour objectif d'organiser les économies nationales afin qu'un pays ne s'écroule pas et qu'il n'entraîne pas avec lui toutes les économies des autres États. C'est ce qu'il y a eu par exemple avec la Grèce. Bon, là on est dans une situation extrêmement, extrêmement grave. Mais l'idée c'est qu'en Grèce, la Grèce était en faillite et il fallait absolument la sauver. Et donc en 2015, ce qui s'est passé, c'est que la Troïka, le FMI, la Banque mondiale, le FMI, la Banque Centrale Européenne et la Commission Européenne, la Troïka donc, sont arrivés et ont dit c'est comme ça et pas autrement, de toute façon il n'y a pas le choix. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que non seulement il y avait une grave crise humanitaire en Grèce à ce moment-là, que le rôle de l'État a été diminué, voire même écrasé, et donc la souveraineté du pays a été complètement écrasée, et aujourd'hui, le pays le plus endetté d'Europe, c'est la Grèce. Preuve que ça n'a rien changé. Oui. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que les procédures qui sont mises en avant par la Commission européenne, ici en l'occurrence, et par le pacte de stabilité et croissance, elles ne sont pas forcément toujours légitimes. Dernier exemple, on a deux règles, la règle des 3% de déficit et la règle des 60% de dette, ratio de dette PIB. Ces deux chiffres-là, ils sont importants parce que si un État a un déficit supérieur à 3% de son PIB, il est en défaut par rapport au traité européen et donc il doit mettre en place des politiques économiques pour diminuer son déficit. La Belgique, elle est à 4,1, je crois, donc on n'est pas bien. Le ratio de dette PIB, donc c'est ce qui calcule le pourcentage entre le montant de la dette d'un pays et son PIB, la Belgique, elle est à 108%. Elle est censée être à moins de 60%. Procédure de déficit variable d'ajustement mise en place par la Commission. Et aujourd'hui, quand on regarde les négociations budgétaires au fédéral, mais aussi à Bruxelles, en fait, on se rend compte que c'est un des plus gros blocages dans les discussions parce que ça ne va pas être possible de diminuer cette dette ou ce déficit sans prendre des décisions politiques.
C'est-à-dire ?
On nous dit l'austérité, et en fait, il y a une autre réponse aussi. On pourrait mieux taxer les entreprises, on pourrait mieux contrôler la fraude fiscale, par exemple. La fraude fiscale, c'est une fourchette entre 12 et 40 milliards annuels. Et on nous rabat les oreilles avec la fraude sociale. Il y avait un documentaire sur RTL qui est sorti là, avec l'autre idiot qui vient dire « Regardez, c'est quand même grave ». Non, non, ok, c'est problématique, mais est-ce que vous voulez avoir l'avis de ces gens-là ? Non, je ne crois pas.
Attends, là, on perd l'avis de ces gens-là, c'est-à-dire ?
L'avis des personnes qui étaient présentées dans le documentaire, pardon, mais je fais un peu des ponts.
Une mission qui fait l'objet d'une plainte, d'ailleurs, pour...
Je sais pas quoi, je sais plus, enfin bref.
Bref, oui, sur RTL, là, oui.
On nous dit tout le temps, il faut s'attaquer aux pauvres parce que ces gens-là profitent. En réalité, c'est pas eux qui profitent, c'est les riches. C'est les riches qui sont pas taxés, qui ont des stratégies pour faire de l'optimisation fiscale, alors que les vrais montants, ils sont là. Et on parle pas de millions, on parle de véritables milliards. Et c'est un peu la nuance qu'on essaye d'amener, nous, c'est de dire, en fait, d'une part, les traités européens ou les politiques européennes, elles sont biaisées. 3%, 60%, ça représente que dalle. Normalement, c'est pas vrai. La soutenabilité de la dette, ça fonctionne pas par rapport au taux de croissance. Regardez le Japon, par exemple, il est endetté à 230% de son PIB, il n'y a pas de problème. Vous regardez là un pays en Afrique, je sais pas, le Ghana par exemple, qui a un niveau d'endettement qui n'est pas extrêmement élevé. mais qui par contre se fait boxer sur les marchés financiers parce qu'on lui fait pas confiance. La Belgique, on lui fait confiance, il n'y a pas de problème.
Pourquoi on lui fait pas confiance, Ghana?
Parce que l'idée, c'est que les infrastructures et le marché ne permettra pas de rembourser la dette. Donc,
trop pauvre.
Moins d'incertitude.
Moins,
c'est ce d'incertitude.
Oui, mais quoi, derrière ça, c'est quoi là, c'est pas assez moderne, pas assez rentable.
On va pas forcément parler du Ghana ici, mais je vais faire une comparaison. Nous, en tant qu'individu, si on veut par exemple acheter une maison, on va à la banque, on contracte un prêt. En fonction de notre statut, est-ce qu'on a un CDI, est-ce qu'on a des enfants, est-ce qu'on a deux salaires, est-ce qu'on a d'autres prêts à rembourser, on va avoir un taux d'intérêt relativement intéressant. Ça veut dire ça, le taux d'intérêt, c'est ce qui va calculer le degré de confiance que la banque a en notre capacité à rembourser le prêt qu'on lui contracte. Et ben, si on prend le cas du Ghana, par exemple, les marchés financiers n'ont aucune confiance en l'État, que ce soit à cause d'une instabilité politique, instabilité sociale, crise écologique. On se dit, oh là là, ça c'est de la merde. Par contre, il y a d'autres États, comme par exemple la Belgique, qui a une note double A, donc qui n'est pas parfaite, mais qui n'est pas négative non plus. Et on emprunte à du 3, 4, 5% en fonction. Et c'est un peu ce qui démontre le degré de confiance que les marchés financiers ont dans un État. Et ça, c'est ce qui permet de savoir si on peut continuer à s'endetter ou pas. Et effectivement, en Belgique, on peut très clairement continuer à s'endetter, il n'y a pas de problème. Les raisons pour lesquelles on nous impose l'austérité, elles ne sont pas économiques, elles sont politiques. Et c'est vraiment ça le discours qu'il faut déconstruire.
Et ça veut dire quoi quand tu dis ça?
Que les raisons sont politiques?
Ouais.
Bah que ce sont des choix.
Et quoi? Ça veut dire quoi? Enfin, le gouvernement veut du mal à son peuple? Moi, je joue là. Non, mais bah, pour qu'on comprenne bien ce que tu veux dire. Quoi, c'est ça l'idée? C'est que le gouvernement, en fait, il s'en fout. Il s'en fout de son peuple, en fait, qui fait croire des choses qui sont fausses, quoi. C'est ça que t'es occupé à dire. Mais enfin,
Je crois que un gouvernement qui représente le néolibéralisme, ou en tout cas une forme de néolibéralisme, quoi qu'il arrive, ne sert pas les intérêts de la majorité de la population. Un gouvernement de ce type va servir les intérêts d'une minorité, une minorité dominante, qui possède déjà les moyens de production, qui possède déjà les plus hauts patrimoines, et en fait, on va juste chercher à les protéger. Et c'est ça le problème. Quand tu as des gens qui meurent dans la rue tous les jours, et qu'en comparaison, on nous dit « Oui, mais c'est à cause des migrants ou des fainéants », alors en fait, non, il faut arrêter les conneries. Non, l'enjeu, il n'est pas là. Et quand on a 17 milliardaires en Belgique. 17. Comment se fait-il que ces personnes-là puissent vivre librement avec leurs milliards pendant qu'on a des enfants, des familles, des mères qui n'ont pas de thunes? Et qui sont littéralement en train de crever. On nous donne un ennemi et c'est pas celui-là sur lequel il faut s'attaquer.
Mais moi je suis d'accord avec vous. Hein. Après j'avais envie de mieux comprendre pourquoi ça se passe comme ça. Donc c'est du rapport de force, c'est de la politique, c'est celui qui se fera entendre le... C'est un peu analyser pourquoi ça se passe comme ça. Et aussi peut-être parce qu'il n'y a pas une gauche depuis plein d'années hein, qui a trahi, c'est ce qu'on dit aujourd'hui, on ose un peu le regarder aussi, qui ne propose pas non plus quelque chose de diamétralement opposé, qui fait qu'on sait vers où on va. Je veux dire, la gauche aussi, elle s'est embourgeoisée, elle joue avec le capital.
Je ne sais pas si je vais répondre exactement à la remarque que tu viens de faire, mais juste pour rebondir un peu sur ce que vient de dire Vincent, en fait, toute cette logique, elle est imposée parce que la dette est vue comme un problème contre lequel il faut lutter. Et alors nous, on dit oui, mais non, dans le sens où, en fait, c'est pas la dette le problème, en fait, c'est la manière avec laquelle on s'endette.
Vas-y, ça m'intéresse, c'est la manière avec laquelle on s'endette, ça veut dire?
C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, par exemple, la Belgique, si je ne me trompe pas, on est plus ou moins 60% de la dette belge est détenue par des acteurs étrangers. Donc ça veut dire qu'on dépend de la volonté de ces acteurs pour s'endetter. Ouais. Par exemple, aujourd'hui, Vince, si je ne me trompe pas, t'as dit, la Belgique, c'est 108% en 2025 d'endettement par rapport au PIB. Vous regardez des pays comme le Japon est endetté à plus de 200% de son PIB, ce qui ne pose pas de problème parce que le Japon est endetté auprès de sa propre population. C'est-à-dire que c'est l'épargne de la population qui sert à financer l'État, et donc l'État doit rembourser à des créances envers sa propre population. Aujourd'hui, la Belgique, elle est majoritairement endettée envers les marchés financiers. Et donc ça veut dire qu'on est obligé de répondre aux desiderata de ces marchés qui ont tout intérêt à voir appliquer des politiques d'austérité, etc.
T'as pas un exemple concret pour bien comprendre? Moi j'aime bien quand c'est du concret. Hein. Tu dis que c'est à l'extérieur alors. Et quoi? C'est qui? C'est quoi? Comment ça se passe? Genre
quand je dis les marchés, c'est un peu une forme abstraite, mais c'est les banques. C'est des fonds d'investissement, c'est des compagnies d'assurance, etc. Donc c'est des acteurs qui sont sur...
Multinationales, quoi. C'est des capitaux qui sont comme des pieuvres. Moi, je vois ça comme ça, ça... Non ?
Oui, si. Ouais, je sais pas,
il faut des gros... Tu dis ?
T'as dit quoi, les multinationales ?
Oui, j'ai dit les multinationales, ouais.
C'est pas vraiment les multinationales, mais comme j'ai dit, vraiment, plus des banques, des fonds d'investissement, etc., qui...
BlackRock et tout ça, comme ça.
Ouais, si, c'est ça, il y a des acteurs comme BlackRock, mais c'est des acteurs qui...
Troisième ambulance.
Oui. Je sais pas si on attend qu'elle passe. Mais...
On t'entend, hein. Le 112. Ouais, ça marche. Ça marche, le 112, hein.
C'est le pub.
C'est quoi, tu dis ?
C'est la pub. C'est la pub ambulance. Non, mais c'est des acteurs qui canalisent les capitaux. Et qui vont les prêter aux États qui en ont besoin, donc comme la Belgique. Mais on en a besoin parce qu'on décide de s'endetter auprès d'eux. Et en fait...
On pourrait ne pas les prendre et dire « Non, on n'a pas besoin. »
Mais comme j'ai dit, il y a différentes manières de s'endetter. J'ai donné l'exemple du Japon. Aujourd'hui, on décide de s'endetter auprès des marchés extérieurs, mais ça nous met dans une situation de dépendance. Et c'est pour ça qu'on doit... En fait, les politiques d'austérité, les politiques néolibérales qu'on se voit imposer, en fait, c'est des politiques qui vont dans le sens des marchés. Et en fait, tout à l'heure, tu fronçais un petit peu les sourcils quand tu parlais des agences de notation. En fait, les agences de notation, je ne sais pas si besoin de définir, mais en fait, c'est un acteur ultra important de l'économie, des marchés, etc., notamment dans le cas que décrivait Vincent, par exemple, avec des États comme le Ghana, etc., qui n'ont pas la confiance des marchés qui se voient imposer des taux d'intérêt colossaux. En fait, les agences de notation, c'est des agences qui vont déposer des labels sur l'économie des États, des labels de confiance. C'est-à-dire que si les marchés
t'as peuvent... la gommette, quoi. Toi, t'as la gommette, ça va, t'es rassurant.
C'est ça. Donc, si vous avez une économie super solide, etc., ben, les agences de notation vont mettre une note AAA qui est la meilleure. Et si elles vont décider que tu n'as pas la confiance des marchés, ben, tu vas avoir une mauvaise note. Et donc, les taux d'intérêt qu'on va t'imposer vont varier en fonction de la note qu'on va t'attribuer. Et donc, nous, en fait, en Belgique et en Europe, on applique des politiques d'austérité, des politiques néolibérales qui vont dans le sens des marchés pour justement avoir ces bonnes notes. C'est-à-dire que si tu regardes, je prends un exemple un peu plus concret, si tu regardes par exemple en France quand il y avait la réforme des retraites et qu'il y avait des mobilisations contre la réforme des retraites, eh ben, la France a été menacée d'avoir sa note dégradée. Parce que la population se mobilisait contre une politique classiquement néolibérale. Et en fait, ça pose un problème énorme, parce que ça veut dire que si en fait on se voit menacé d'avoir des taux d'intérêt, donc que les moyens de financement de l'État sont dégradés parce qu'on décide d'adopter des politiques qui vont contre les intérêts du marché, en fait, on a les mains complètement liées. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est obligé de répondre aux intérêts du marché, donc du grand capital, des grandes entreprises, des banques, des...
Mais quand tu dis « on est obligé », tu parles de ceux qui gouvernent, c'est ça ?
Mais oui, je parle de l'État, de la société de manière générale, mais de laquelle nous, on subit les décisions.
Bien sûr, mais c'est qui décide ça ? Ça se passe au gouvernement, quoi, si je comprends bien. C'est un bon exemple que tu prends, mais je veux dire, tu disais aussi que ces politiques d'austérité, on peut faire autrement. Alors quoi ? Tu vois ce que je veux dire ? Tu as l'air de dire, ah, ils n'ont pas le choix, parce que s'ils veulent la bonne note, si...
Et en fait, aujourd'hui, les gouvernements qu'on a rentrent dans cette logique.
Oui.
En fait, si on voulait sortir de cette logique, il nous faudrait un gouvernement qui serait prêt à aller dans un... En fait, qui appliquerait une politique de rupture et qui serait prêt à aller dans une confrontation...
C'est possible.
Oui, c'est possible. Il y a des gouvernements qui l'ont fait, comme profondément dans cette politique de rupture, il n'y a pas tellement d'exemples.
Non,
mais je dis il y a des gouvernements qui l'ont fait en pensant par exemple à l'Équateur qui avait remis en question le paiement de sa dette. Et en fait, je viens à ça parce que pour nous, pour le CADTM, donc qui travaillons sur la question de la dette, la question du paiement de la dette à ces marchés financiers est un outil qui permet de créer un rapport de force. C'est-à-dire qu'il y a une petite phrase qu'on dit souvent, c'est que si vous devez 3000 euros à votre banquier, bah vous êtes un peu dans la merde. Si vous devez 300 milliards à votre banquier, c'est votre banquier qui est dans la merde. Parce que si vous décidez de ne pas rembourser ces 300 milliards, bah, il sera dans une situation assez problématique. Et donc, en fait, aujourd'hui, donc, comme je dis, on est dans une situation de dépendance par rapport à ces marchés qui peuvent nous imposer des taux d'intérêt, qui peuvent décider de ces taux d'intérêt en fonction des politiques qu'on va choisir. Et ça, c'est extrêmement important de le comprendre, parce que si demain, on a un gouvernement de gauche qui arrive au pouvoir avec une politique de justice fiscale, de bifurcation écologique, ça ne va pas dans le sens des intérêts du marché et on va se faire asphyxier financièrement. Donc, en fait, si on veut un jour appliquer un programme de gauche ambitieux, en fait, il faut être prêt obligatoirement à aller dans une confrontation face au marché.
Bien sûr.
Et c'est là que je veux en venir, par exemple, avec l'exemple de l'Équateur, c'est que la dette, donc le fait de rembourser les dettes qu'on doit au marché financier, peut être remis en question pour les obliger à s'asseoir à la table des négociations, pour renégocier les taux d'intérêt, pour renégocier éventuellement des dettes qu'on ne serait pas d'accord de payer, s'il y en a, il y en a beaucoup. Et voilà.
Et puis aussi, je vous dis le temps, hein. Il reste 42 minutes. Il y a 42 minutes, il reste 8 minutes en gros, ça va aller vite quoi. Et oui, et ce qu'on parle pas aussi dans notre discussion là, c'est aussi dans cette manière de vouloir changer le rapport de force, hein, de dire que ça, on arrête avec cette austérité et de redessiner un petit peu un projet de société quoi, avec cette économie qui va avec, c'est de dire qu'aussi la production, on la change aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, je trouve qu'on aborde aussi très peu... La production, c'est du capital, quoi, hein. C'est de l'investissement. Et on parle, je trouve, très peu dans le milieu de la gauche de cette production, quoi, de dire que peut-être on produit trop, souvent de la merde, à l'autre bout du monde. Ça, on le dit assez quand même, mais vous voyez ce que je veux dire? Dans le rapport de force, c'est aussi... peut-être, du coup, nous, les peuples, c'est aussi une autre manière un peu de vivre aussi, peut-être, quoi. On vit peut-être trop, exagéré.
Bah, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, avec cette période pendant 30 ans, donc après la Deuxième Guerre mondiale, on nous a imposé un mode de vie. Et donc un mode de vie relativement individuel, individualiste, avec cette idée de société des propriétaires. Et cette société des propriétaires, elle renvoie à une idée, la propriété privée. Et en fait, on s'est construit en disant, pour pouvoir avoir une bonne vie, il faut pouvoir posséder de manière privée un maximum de choses qui vont nous permettre d'améliorer notre qualité de vie.
Mais ça, parce que ça, je suis super sensible à ça. Ça, on nous l'a imposé, hein, à coup de bâton sur la tronche, à coup de... Enfin, ça a été hyper violent, ça, hein, parce que les gens savent que la solidarité, quand on n'a pas beaucoup, c'est important, quoi. Ça a été, une volonté de là-haut de casser les communs, quoi.
Ouais. Ouais, mais c'est exactement ça. Et en fait, cette volonté de casser les communs, elle remonte, en fait, à... moi, je pense qu'en général, on peut la situer peut-être au XVIe siècle, au XVIIe siècle, notamment avec le processus des enclosures en Angleterre. Et en fait, ce principe-là, c'est de dire le commun n'existe pas, il faut le privatiser pour pouvoir ensuite produire, pour pouvoir ensuite avoir de l'argent, pour pouvoir acheter d'autres terres, etc., etc. Et en fait, cette démarche-là, elle était amplifiée pendant les 400 dernières années, disons. Et depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans, on se rend compte que ce modèle-là, donc le modèle de privatisation, il augmente les inégalités, il augmente la précarité. Et donc, il n'est pas juste, il est profondément injuste. Et ce qu'on doit essayer de faire aujourd'hui, c'est effectivement remettre individuellement nos modes de fonctionnement en question, de type, est-ce que j'ai besoin du dernier iPhone? Est-ce que j'ai besoin d'avoir le nouveau SUV? Est-ce que j'ai besoin d'avoir les meilleurs produits les plus chers et manger du poisson qui vient de Norvège, etc., etc. Et donc, en fait, effectivement, individuellement, on a une responsabilité. Il faut qu'on puisse modifier nos comportements individuels. Mais si on se concentre uniquement sur cette stratégie-là, on est... si on se concentre uniquement sur cette stratégie-là, on se rend compte qu'en fait, on n'attaque pas du tout les problèmes qui sont structurels. Et pour attaquer les problèmes structurels, il faut les connaître. Et ça, malheureusement, ça demande une mobilisation tellement importante pour contrer des mécanismes qui ont été mis en place il y a plusieurs décennies. Et ces mécanismes-là, d'un point de vue juridique par exemple, ils sont ultra complexes à remettre en question. Parce qu'il faut, par exemple, on parlait des traités européens tout à l'heure, en fait, pour modifier un traité, il faut l'aval des 27 États, et il faut ensuite de l'Union européenne, et puis ensuite, il faut que les parlements de chacun des États valident cette décision. Et donc, c'est
un truc de dingue, quoi.
C'est ça, c'est une procédure catastrophique, et en fait, c'est fait exprès. C'est orchestré, c'est fait exprès. Et donc, pour non seulement réagir par rapport à ça, il faut qu'on soit conscient individuellement de ce que ça représente, mais il faut aussi et surtout qu'on puisse éduquer le plus grand nombre de personnes pour que ces gens-là comprennent les nuances. Et ça,
c'est de quels gens-là tu parles ?
Concrètement.
Ou les peuples ?
Les peuples.
Oui, mais moi je crois que ça. Parce que l'idée c'est toujours de taper sur un éteins ta lumière, mange comme il faut, habille-toi correctement. Moi, j'ai un peu du mal, c'est souvent aussi, ça part d'en haut, quoi, tu vois, c'est vraiment, il y a une force là-haut, et après, ça a une influence sur les gens, évidemment, tu vois, ouais, mais j'aime bien, là, vous m'avez, c'est bien.
Non, mais...
Très bon dire.
Oui, pour rejoindre, c'est à nouveau, en fait, tous les petits comportements de sobriété, en fait, ça va aussi à l'encontre des intérêts, en fait, pardon, je...
Non mais vas-y, vas-y.
L'idée qui me passe en tête, mais ce qu'il faudrait faire, en fait, on se rend compte, je crois que tout le monde se rend compte au fur et à mesure que les questions de transition verte basées sur les batteries, sur les voitures électriques, etc., bah, c'est quelque chose de pas viable vraiment si on veut répondre aux questions de crise écologique, de crise climatique, qu'il faut vraiment arriver à rentrer dans une logique de sobriété de consommation, sauf que tout ça, ça ne va pas du tout dans les intérêts, dans le sens des intérêts des grandes entreprises. Je ne parle pas des petites entreprises, des PME, etc., mais vraiment des multinationales, etc., qui basent vraiment leurs profits sur le consumérisme à outrance. Et en fait, oui, on peut avoir nos petits comportements individuels pour essayer de limiter notre consommation, notre impact, etc., mais en fait, on est face à des acteurs extrêmement puissants qui mettent énormément d'énergie, énormément d'argent dans la lutte contre cette idée de sobriété, en fait. On regarde, même on en parlait encore hier avec Vincent, quand vous avez des États, par exemple, qui... je sais pas, il y avait l'exemple de enfin, c'est un petit peu un autre exemple mais que la question écologique, mais ça illustre un petit peu le pouvoir face auquel on fait face. C'est quand vous avez un État qui essaye de mettre en place des politiques vertueuses. L'exemple dont on parlait hier, c'était l'Égypte qui avait rehaussé le salaire minimum salarial. Et ben l'État se fait attaquer en justice par l'entreprise, dans ce cas-là c'était l'entreprise Veolia, entreprise française, qui avait investi en Égypte et qui dit « Oui, mais si moi j'ai investi en Égypte parce qu'il y avait ces conditions-là, si vous changez, si vous augmentez les acquis sociaux, ben moi je suis lésé, donc vous me devez X milliards ». Vous avez la même chose en Australie qui voulait limiter la consommation de tabac, qui s'est fait attaquer en justice par Philip Morris et qui, pareil, qui a traîné l'État en justice pour récupérer des milliards. Et donc, en fait, on est dans une farce.
Mais... Pardon, de la farce.
En vrai, oui, ça pourrait être une bonne conclusion, on est dans une grande farce, mais...
Oui, mais moi, ça me fait du bien, là, en parlant du concret, parce que la dette, là, on a envie de dire oui, mais qui raconte la vérité là ? C'est quoi l'analyse la plus juste, vous voyez, avec les médias qui arrêtent pas de. Bah bon, les médias sont au service des dominants, donc on entend toujours la même chansonnette. Ça ferait trop du bien que votre travail soit un peu plus audible, visible. C'est ça que j'ai envie de dire, moi.
Eh ben voilà.
Non ? Où vous êtes ? Et vos collègues et tout, zut, quoi. Pourquoi on vous entend jamais ? Pourquoi vous prenez pas passez pas RTL pour avoir un débat
Ben, pour pouvoir être visible, il faut... Bon, typiquement, le genre de discussion qu'on est en train d'avoir, c'est super important. Il faut donner la parole aux personnes qui sont dans ce secteur-là, qui cherchent à recréer du commun et qui cherchent à contredire l'argument dominant autour de la dette et autour de l'économie de manière générale. Mais la deuxième chose, c'est ce que je disais tout à l'heure avec les contre-pouvoirs, le néolibéralisme, à partir du moment où il y a du contre-pouvoir, il va tenter de le détruire d'une manière ou d'une autre.
Si commence à devenir dangereux, parce que sinon, c'est comme le bio, les petites niches de bio, là, ça va pas déstabiliser la grosse industrie, donc on les laisse aussi, tu vois, il est fin. Hein. Ben, il dira le capital, ben enfin, vous faites ce que vous voulez, hein. Si vous voulez manger bio et de la merde, c'est vous qui choisissez.
Juste une mini parenthèse qui va dans ce sens-là, c'est que aujourd'hui, ben, nous, donc, avec le CADTM, on est financé en éducation permanente par la Fédération Aligny Bruxelles. Ben, aujourd'hui, l'éducation permanente, elle est plus que menacée, puisqu'en fait, ils sont en train de prévoir des coupes massives dans les subventions à l'éducation permanente. Et en fait, vous avez plein d'ASBL d'ONG comme la nôtre qui font un travail super important pour, je vais pas dire éduquer, qui pourrait être un peu méprisant, mais pour diffuser de l'information, pour essayer de conscientiser les gens, pour les faire, par exemple, la question de la dette, c'est classiquement un sujet que personne n'a envie de... Tu rentres chez toi le soir à 18h, t'as vraiment pas envie d'entendre parler de la dette publique, etc. Alors qu'en fait, c'est des sujets super importants, puisqu'on nous impose toute une série de politiques qui vont à l'encontre de nos intérêts au nom de la lutte contre la dette. Le CADTM, il fait un travail de conscientisation et de vulgarisation sur la question. Eh ben, c'est donc un contre-pouvoir, d'une certaine manière. Et comme dit Vincent, les dominants, plus ils ont les coudées franches, plus ils vont avoir tendance à lutter, à éliminer tous ces contre-pouvoirs. Et aujourd'hui, on le voit vraiment avec la question de l'éducation permanente. Donc on parle du CADTM, mais on parle de plusieurs centaines d'autres associations qui travaillent, comme j'ai dit un petit peu au début, sur les questions de la souveraineté alimentaire, de l'éducation, de la santé, du climat, de l'écologie, etc. De la conscientisation face à la montée de l'extrême droite, de la conscientisation face à la montée du fascisme. Et en fait, le fait de couper dans l'éducation permanente, aujourd'hui, les politiques de droite, donc NVA, MR, etc., qui sont au pouvoir, en fait, sont en train de faire un coup énorme qui va vraiment dans le sens de leurs intérêts, en limitant les discussions sociales, la
rencontre, l'échange, enfin ouais, voilà, c'est clair. Mais bon, ils n'ont pas gagné, hein, c'est pas fini. Hein. La partie n'est pas finie, hein, on est d'accord. Mais ça va réveiller aussi un peu, non? Ça va un peu réveiller cette gauche ou les gens, même les gens de la rue, quoi, non?
Ça va réveiller, en tout cas, il y a des personnes qui continuent de se battre, et ça, c'est vraiment le plus important. Et donc, il faut pouvoir mettre en lumière ces luttes. Et ça, c'est vraiment une mission qui est primordiale. Et plus généralement, si on parle de médias qui cherchent à présenter un contre-pouvoir, il y a énormément de médias indépendants qui sont principalement sur les réseaux sociaux ou en ligne.
Comme quoi, par exemple ?
Moi, je pense à Bruxelles Davy, ici à Bruxelles. Je pense à Irruption, je pense à Urbiz, je pense à Askip. En bref, ça, c'est des petits médias qui sont là depuis peut-être entre 5, 6, 7 ans, peut-être plus pour certains, et qui proposent vraiment un discours de contre-pouvoir. Mais ces médias-là, ce sont des médias indépendants qui n'ont pas de fonds, qui dépendent de l'argent des personnes qui veulent les soutenir, mais il n'y a pas de financement étatique, il n'y a pas de financement au niveau de la région. Donc c'est vraiment opérer dans une situation de précarité. Être un journaliste aujourd'hui, c'est ultra précaire comme situation. Et quand on pense par exemple à Georges-Louis Boucher, qui attaquait des journalistes en leur téléphonant, en leur mettant des coups de pression, on voit aussi comment le politique, il attaque le journalisme. Et donc, encore une fois, le journalisme, c'est un contre-pouvoir. Le contre-pouvoir, s'il ne sert pas les intérêts des dominants, il faut absolument qu'on l'éteigne. Et c'est justement ça, ce discours. Donc voilà, continuer à se battre, c'est la seule mission. Et il y a plein de gens qui le font encore. Et ça, c'est vraiment trop bien. Mais il faut leur donner de l'énergie, il faut leur donner de la lumière et de la thune. C'est obligatoire.
Termine là-dessus ?
Ouais, bah, petite pub quand même. Que si les gens veulent suivre un petit peu la question de la dette, bah, donc nous, on travaille à fond sur la question, que ce soit la question de la dette des pays des Sud et toute la question néocoloniale qui va avec, les inégalités Nord-Sud, etc., sur les questions d'extractivisme, d'inégalité de domination de genre, un petit peu comme j'ai dit au début. Donc nous, on est sur les réseaux, on a un site qui n'est pas très sexy en apparence, mais qui regorge de plein d'informations, de plein d'articles, de plein d'analyses, des études super intéressantes.
La dette aussi, j'imagine, pour approfondir.
Oui, c'est ça. Bah, quand je donne tous ces sujets, en fait, c'est des sujets qui sont que nous, on traite, on fait les liens entre ça et la question de la dette, la question du capitalisme, du néolibéralisme, de l'austérité, etc. On est sur les réseaux, on est aussi un réseau international présent dans près de 30 pays, réseau international militant, je souligne, c'est-à-dire qu'on n'a pas des employés à gauche à droite, mais que c'est des groupes dans les États, dans ces pays-là qui veulent rejoindre le réseau parce qu'ils se reconnaissent dans nos luttes. Reconnu en éducation permanente, donc on fait en permanence des petites activités, des conférences, des discussions, débats, on en a tout le temps à Liège, à Bruxelles. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site, sur nos réseaux. On est sur Facebook, sur Instagram et sur Blue Sky. Et voilà, par exemple, gros événements annuels, on a nos rencontres d'automne chaque année en octobre. Cette année, on avait On était à Liège, il y avait Rima Hassan, il y avait plein de gens de... C'est l'occasion d'inviter plein de gens de notre réseau du Sud, etc. Donc n'hésitez pas à suivre, à vous informer et à envoyer des petits messages, des mails. On est toujours là pour répondre.
Merci Pablo.
Moi je voudrais seconder tout ce que Pablo vient de dire. Et ici, j'ai un livre en main. Je voudrais mettre un peu la lumière dessus, puisqu'on parle tout le temps de mettre la lumière sur certaines personnes. C'est La justice du capital de Amina Hassani, qui est docteur en droit international et qui vient de sortir ce livre aux éditions La Fabrique. C'est sorti le 7 novembre et qui parle justement de la façon dont le système juridique contribue à soutenir les entreprises privées et à quelque part geler la capacité réglementaire des États. Vraiment bon bouquin, je le conseille très très fort et je peux en fait juste encourager un maximum de monde à lire. C'est vraiment une des priorités, lire ou écouter, c'est vraiment une des priorités si on veut parvenir à trouver des alternatives.
Merci à toi, ton prénom ?
Vincent.
Vincent, je n'ai pas rentré celui-là. Pablo aussi, mais pas Vincent. Vincent et Pablo, merci.
Merci à toi.